Chapitre 60. Galadon s'était caché dans la pénombre. Il demeura parfaitement immobile jusqu'au départ du Giorn et de ses étranges compagnons au torse dénudé, puis rampa jusqu'au corps de Raoden. Karata l'imita.
« Sulé ?»
Raoden ne bougea pas.
« Doloken, Sulé !»
reprit Galadon, suffoqué par l'émotion.
« Tu n'as pas le droit de me faire ça !»
Raoden émit un murmure à peine audible. Le Dula se pencha plus près.
« Trop tard !»
soupira Raoden.
« J'ai échoué, mon amour. »
Le mantra des déchus. Raoden avait rejoint les Oèdes. Galadon se laissa glisser sur les pavés. Des sanglots interminables le secouèrent. L'heure qu'il venait de vivre avait été horrible. Lui et Karata s'étaient rendus à la bibliothèque pour organiser la fuite du peuple d'Elantris. Ils avaient entendu des clameurs dans le lointain, mais le temps qu'ils retournent à la nouvelle Elantris, leurs compagnons étaient déjà tous devenus des Oèdes. Pour ce qu'il en savait, Karata et lui étaient les deux seuls élantriens encore conscients. Karata posa la main sur son épaule.
« Galadon, nous ferions mieux de partir. Nous sommes en danger ici. »«
Non, » dit le Dula en se relevant. « J'ai une promesse à tenir. »
Il regarda le versant pentu de la montagne où se trouvait le lac, face à la porte principale de Caë. Puis il se baissa, noua sa veste autour de Raoden pour couvrir sa blessure et prit son ami sur ses épaules.
« Raoden m'a fait promettre de lui donner la paix. Je ferai la même chose ensuite. Nous sommes les derniers, Karata. Nous n'avons plus notre place en ce monde. »
La femme acquiesça, puis elle vint à côté de lui pour l'aider à porter Raoden. Ensemble, ils prirent la route pour le lieu de l'oubli. Lucel n'opposa aucune résistance. Il savait que cela ne servait à rien. Son père, en revanche, se comporta différemment. Il ne fallut pas moins de 3 fjordels pour attacher Kin et le hisser sur un cheval. Et même alors, cet homme corpulent parvint à balancer un coup de pied dans une tête qui passait près de lui. Un soldat décida alors de le frapper à l'arrière du crâne avec une pierre. Kin ne bougea plus après cela. Lucel serrait sa mère et sa femme contre lui, tandis que les guerriers les conduisaient à Elantris. La file des prisonniers était immense, constituée pour l'essentiel de nobles capturés aux 4 coins de Caë, dont les vêtements et les visages étaient ravagés. Les soldats ne les lâchaient pas des yeux, comme s'ils craignaient que ces pauvres gens ne prennent la fuite. La majorité gardait la tête baissée et se laissait conduire dans les rues. Kaizé et Daorn s'accrochaient à Lucel, les yeux écarquillés de peur. C'étaient eux dont Lucel avait le plus pitié à cause de leur jeune âge. Adienne marchait juste derrière lui, apparemment inconscient de la situation. Il comptait ses pas.
357, 358, 359.
Lucel, lui, savait bien qu'il marchait droit vers la mort. Il voyait les corps alignés le long des rues. Il avait compris que ces hommes ne cherchaient pas seulement à les asservir. Ils comptaient les massacrer, tous, sans laisser le moindre survivant derrière eux. Pendant un court instant, il eut envie de réagir, de prendre une épée et de se battre, même si cela ne servait à rien, par pur héroïsme. Il se contenta d'avancer comme les autres, d'un pas lourd. Il savait qu'il allait mourir et qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher cela. Lucel n'était pas un guerrier. Tout ce qu'il pouvait espérer désormais, c'était une fin rapide.
Raten se tenait tranquillement debout près de Dilaf, comme on le lui avait demandé. Les hommes se mirent alors en cercle, 50 moines de Dakor, Saren et Raten et 1 moine seul au milieu du cercle. Les hommes levèrent leurs bras. Les voisins de Raten posèrent chacun une main sur les épaules du Giorn. Le prêtre sentit son cœur battre plus fort au moment où les moines commencèrent à rayonner, les inscriptions sous leur peau devenues soudain lumineuses. Ensuite, la terre se mit à trembler et Caë disparut. Ils se retrouvèrent dans une ville inconnue. Les maisons alignées le long de la rue étaient grandes et mitoyennes, très différentes de celles basses et longues de Caë. Ils venaient d'arriver en Théode. Le groupe formait toujours un cercle, mais Raten s'aperçut aussitôt qu'il n'y avait plus personne au centre. Le Giorn frissonna comme des images de sa jeunesse lui revenaient en mémoire. Le moine qui se trouvait au milieu s'était consumé, sa chair et ses os avaient brûlé, un sacrifice nécessaire afin de transporter instantanément le groupe en Théode. Dilaf sortit du cercle et entraîna ses hommes vers une rue sombre. Pour ceux qui l'envoyaient, Raten estimait que tous les hommes du Gradjet ou presque l'avaient suivi, laissant l'Arelon aux bons soins de soldats fjordels ordinaires et de leurs supérieurs, des moines de Dakor. L'Arelon et Elantris s'étaient battus. Le Théode serait leur prochaine conquête. Lorsqu'il vit le regard de Dilaf, Raten comprit que ce dernier comptait faire disparaître tous les individus d'ascendance aonique. Dilaf s'arrêta devant un bâtiment au toit plat et fit signe à ses hommes de l'escalader. Cela ne leur posa pas le moindre problème. Leur force surnaturelle et leur agilité leur permettaient de parcourir des surfaces peu ordinaires. Raten se sentit soudain décoller du sol et se retrouva bientôt sur les épaules d'un moine. La terre ferme s'éloignait à mesure que ce dernier grimpait le long du mur, sans la moindre difficulté, malgré l'armure renforcée que le Gurn portait. Les moines de Dakor étaient des monstruosités contre nature, mais il fallait bien reconnaître qu'ils possédaient une force impressionnante. Une fois parvenu sur le toit, le moine laissa tomber Raten sans plus de cérémonie. Son armure claqua contre le sol. Comme le Gurn se relevait, il croisa le regard de la princesse. Le visage de sa reine était rongé par la haine. Elle lui en voulait, bien sûr, même si elle ne s'en rendait pas vraiment compte. Après tout, Raten était lui aussi prisonnier, tout comme elle. Dilaf scrutait la ville depuis le bord du toit. Une flotte pénétrait dans la gigantesque baie du Théode. « Nous sommes en avance !» annonça le Gradjet en s'accroupissant sur ses talons. « Il ne nous reste plus qu'à attendre. »
Galadon trouva la cité presque paisible. Il se tenait debout sur un gros rocher, à flanc de montagne, et regardait la lumière du matin se lever sur Kaï. Ce spectacle lui donnait l'impression qu'une main invisible retirait un rideau noir. Il pouvait presque imaginer que la fumée au-dessus de la cité s'échappait des cheminées, pas des ruines encore fumantes des maisons. Il tenta de se convaincre que les taches alignées le long des rues n'étaient pas des corps, mais des buissons ou encore de simples caisses. Et le sang écarlate dans les rues, une couleur qui disparaîtrait après la naissance de l'aube. Le Dula tourna le dos à la ville. Kaé semblait peut-être calme, mais ce calme était celui de la mort, et non de la sérénité. Cela ne servait à rien de considérer les choses autrement. S'il avait été de nature moins rêveuse, jamais il n'aurait laissé Raoden le sortir du caniveau d'Elantris. Il ne se serait pas laissé gagner par l'optimisme simpliste d'un homme. Il n'aurait pas accepté de croire que la vie à Elantris pouvait prendre une autre tournure, être autre chose qu'une perpétuelle souffrance. Il n'aurait jamais pris le risque d'espérer. Malheureusement pour lui, il avait écouté, tel un rulot. Il avait laissé les rêves de Raoden prendre vie. Un jour, pourtant longtemps auparavant, le Dula avait dû renoncer à l'espoir. Il avait alors cessé de se projeter dans l'avenir, par crainte d'être déçu. Et il aurait mieux fait de s'en tenir à cette position. S'il n'avait pas espéré, jamais il n'aurait connu pareille déception.
« Doloken, Sulé !»
marmonna Galadon en regardant le corps inconscient de Raoden.
« Mais tu m'as bien gâché la vie !»
Le pire dans cette histoire, c'était qu'il espérait encore. La flamme que Raoden avait allumée brûlait toujours dans son cœur, malgré tous ses efforts pour l'éteindre. Le Dula se repassait dans sa tête les images de la destruction de la nouvelle Elantris. Lorsqu'il pensait à Maresh, il avait la sensation d'avoir un énorme trou dans la poitrine. Et cet artisan discret, Taan, dont les doigts bougeaient encore malgré l'énorme pierre qui lui écrasait le visage. Le vieux Kahar, qui avait nettoyé la cité pour ainsi dire tout seul, avait perdu un bras et les deux jambes. Galadon avait assisté au carnage en maudissant Raoden de les avoir abandonnés, de les avoir laissés derrière lui. Le prince les avait trahis au bénéfice de sa reine. Et malgré tout, Galadon avait toujours de l'espoir, tel un petit rongeur tapi dans un coin de son âme, effrayé par la colère, la rage et la désespérance. Mais chaque fois qu'il essayait de s'y accrocher, l'espoir allait se terrer dans un autre recoin de son cœur. Le Dula avait fui la cité et ses morts. Il s'était discrètement glissé hors d'Elantris pour retrouver Raoden, pensant que peut-être, malgré l'évidence de la situation, le prince arrangerait tout.
« C'est toi l'imbécile dans cette histoire, Galadon, pas Raoden, » se disait-il amèrement. Il était fidèle à lui-même. Toi, en revanche, tu savais.
Et malgré tout, il continuait de croire en son ami,
Une partie de lui s'attendait toujours à ce que Raoden accomplisse un miracle. Telle était sa malédiction. Son ami avait semé en lui les graines pernicieuses de l'optimisme, et il ne parvenait pas à les arracher. Galadon avait encore de l'espoir, et il en aurait certainement jusqu'à ce qu'il se précipite dans l'eau de l'oubli. Sans un mot, il fit un signe de la tête à Karata, puis souleva Raoden pour parcourir la courte distance qui les séparait du lac. D'ici quelques minutes, l'optimisme et le désespoir ne viendraient plus le hanter. Malgré l'aube qui perçait à l'horizon, Elantris était encore plongé dans l'obscurité. L'ombre des hauts murs empêchait la lumière du soleil d'entrer, prolongeant la nuit de quelques instants. C'était là, sur la grande esplanade à l'entrée de la cité, que les soldats avaient parqué Lukel et les autres nobles. Tandis qu'un groupe de Fjordel faisait un énorme tas de bois, d'autres charriaient de la ferraille de construction et des matériaux à l'intérieur de la ville. Les guerriers démoniaques étaient étonnamment peu nombreux. Trois créatures seulement dirigeaient les opérations. Le reste de l'équipe se composait d'humains ordinaires. Ils portaient des armures recouvertes des surcots rouges des moines d'Ereti. Ils s'activaient sans jeter le moindre regard aux prisonniers, comme pour éviter de penser ce à quoi le bois allait servir. Lukel s'efforçait lui aussi de ne pas y songer. Jala vint à ses côtés. Elle tremblait de peur. Lukel avait bien tenté de la convaincre de révéler ses origines svordoises, mais en vain. Elle parlait si peu et de manière si peu assurée que certains la jugeaient faible. S'il l'avait mieux connue ou vu rester près de son mari de son plein gré en cet instant malgré la perspective d'une mort certaine, ils auraient compris leur erreur. De tous les marchés, accords et reconnaissances que Lukel avait passés et emportés, le cœur de Jala était sans conteste le plus précieux. Les siens demeuraient groupés autour de lui. Daora et les enfants n'avaient personne vers qui se tourner à présent que Kyn avait perdu connaissance. Seule Adienne se tenait à l'écart. Il observait la pile de bois de charpente en murmurant des séries de chiffres intelligibles de lui seul. Lukel scrutait la foule des nobles assemblés, tentait de sourire pour soutenir le moral des uns et des autres alors qu'ils se sentaient si mal. Elantris serait leur dernière demeure. Tandis qu'il les observait, Lukel remarqua à l'arrière du groupe une silhouette à moitié dissimulée par les corps. Elle avançait à pas lents en agitant les mains devant elle. « Shuden ?» pensa Lukel. Le Jindoé avait les yeux fermés. Ses mains dessinaient des signes avec des mouvements fluides. Lukel se demanda aussitôt s'il n'avait pas totalement perdu la tête. Il se remémora alors la danse étrange de Shuden lors du premier cours d'escrime de sa reine. Le Sheishan. Shuden bougeait ses mains lentement sans rien laisser présager de la fureur dont il ferait bientôt preuve. Lukel regardait son ami en se disant qu'il n'avait vraiment rien d'un guerrier. Il pratiquait cette danse pour se maintenir en forme, pas pour combattre. Mais Shuden ne concevait visiblement pas que l'on assassine ceux qu'il aime sans se battre, et ce, par n'importe quel moyen. Le Jindoé préférait mourir au combat plutôt que de rester assis à attendre qu'un miracle veuille bien se réaliser. Lukel, honteux tout à coup, inspira profondément. Il aperçut alors un pied de table qu'un soldat avait jeté juste à côté de lui. Lorsque l'heure viendrait de se battre, Shuden aurait un ami à ses côtés. Raoden flottait, inconscient. Le temps ne signifiait plus rien pour lui. Il était le temps, son essence même. À certains moments, il remontait brusquement à la surface de ce qu'il aurait appelé autrefois un état conscient. Mais la douleur l'assaillait et il renonçait aussitôt. L'agonie lui évoquait la surface d'un lac. S'il plongeait en dessous, la douleur revenait immanquablement prendre possession de tout son corps. Chaque fois que celle-ci avait affleuré, il avait eu la sensation de voir des images défiler, des visions qui auraient très bien pu être authentiques, comme sorties de sa mémoire. Il vit le visage de Galadon, à la fois inquiet et en colère. Il vit Karata, les yeux pleins de désespoir. Il crut discerner un décor de montagne, entièrement recouvert de broussailles et de rochers. Tout cela lui semblait irréel.
J'aurais vraiment préféré qu'il la laisse mourir. Raten leva les yeux. Dilaf paraissait se parler à lui-même, mais il fixait le Gjorn du regard. Pardon ? Demanda Raten, hésitant. Si seulement il l'avait laissé mourir, reprit Dilaf d'une voix traînante. Il était assis au bord du toit et contemplait avec un air nostalgique les navires entrés dans la baie. Ses émotions avaient toujours été changeantes. Aucun homme ne pouvait maintenir un tel degré de ferveur sans que ses émotions ne portent préjudice à son équilibre. D'ici quelques années, Dilaf deviendrait totalement fou. «
J'avais 50 ans déjà à cette époque, Raten, » poursuivit le moine. « Est-ce que vous le saviez ? J'ai bientôt 70 ans, même si mon corps en paraît 20. Elle trouvait que j'étais le plus bel homme qu'elle connaissait, malgré les dégâts que mon corps avait subis. Et pourtant, je ne correspondais pas franchement au canon de beauté arélois. »
Raten ne disait rien. Il avait déjà entendu parler de ce genre de choses, du fait que les incantations de Dakor pouvaient changer l'apparence d'un individu. Ce processus devait être affreusement douloureux.
Lorsqu'elle est tombée malade, je l'ai emmenée à Elantris,
marmonna Dilaf, les jambes remontées contre sa poitrine.
Je savais que c'était un lieu païen. J'avais conscience du sacrilège que je commettais en la conduisant là-bas. Mais malgré les 40 années que j'avais passées à Dakor, je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas dès lors que je pensais qu'Elantris la sauverait. Elantris pouvait guérir, voilà ce qui se disait. D'accord, non, alors je l'ai conduite là-bas.
Le moine avait cessé de regarder Raten. Ses yeux contemplaient le vide.
Ils l'ont changé. Ils ont dit que le charme n'avait pas fonctionné, mais je connais la vérité. Il savait qui j'étais, et ces gens me détestaient. Pourquoi s'en sont-ils pris à Céala dans ce cas? Sa peau est devenue noire, ses cheveux se sont mis à tomber et son agonie a commencé. Elle criait la nuit, elle hurlait que la douleur la rongeait de l'intérieur, jusqu'au jour où elle s'est jetée du haut du mur d'enceinte.
Le moine avait prononcé ces dernières paroles sur un ton absolument sinistre.
Je l'ai retrouvée en bas, encore en vie, malgré la chute. Alors je l'ai brûlée. Elle n'arrêtait pas de crier. Elle crie encore. Je l'entends. Elle continuera de hurler jusqu'à ce que cette cité soit détruite.
Ils atteignirent la saillie derrière laquelle se trouvait le lac. Galadon déposa Raoden par terre. Le prince glissa négligemment contre la pierre. Sa tête pendait légèrement au-dessus du vide. Ses yeux regardaient sans la voir la cité de Kae. Galadon s'adossa contre le rocher près de la porte du tunnel qui conduisait à Elantris. Karata s'effondra à ses côtés, totalement épuisé. Encore un instant et, bientôt, il trouverait l'oubli. Une fois le bois ramassé, les soldats commencèrent à édifier une nouvelle pile, celle des corps. Les hommes parcouraient la ville à la recherche des Elantriens tombés au cours des combats. Tandis qu'ils les observaient s'entasser, Lukel comprit soudain quelque chose. Ces gens n'étaient pas tous morts. En fait, la plupart d'entre eux semblaient vivants. Leurs blessures semblaient si graves que cela rendait Lukel presque malade de les regarder. Mais leurs bras et leurs jambes remuaient toujours, ainsi que leurs lèvres. « Les Elantriens, » songea-t-il avec étonnement, « les morts dont les esprits ne meurent pas. » Les corps s'entassaient encore et encore. Il y en avait des centaines, ceux de tous les Elantriens que l'on avait enfermés là au cours des 10 dernières années. Aucun n'opposait de résistance. Ces gens se laissaient simplement mettre en tas avec des regards indifférents. Leur pile fut bientôt plus grande que le tas de bois. « 37 pas jusqu'au bûcher, » murmura Adienne, qui quitta subitement la foule des nobles. Lukel tenta de rattraper son frère, en vain. Un soldat ordonna à Adienne de retourner auprès des autres. Le garçon n'en fit rien. Le garde, sous l'effet de la colère, dégaina son épée et frappa Adienne à la poitrine. Le jeune homme trébucha, mais il continua d'avancer. Sa blessure ne saignait pas. Le soldat le fixa d'un air stupéfait, avant de bondir en arrière pour fuir ce diable. Adienne arriva près de la pile des Elantriens, se laissa tomber dedans, puis cessa de bouger. Le secret qu'Adienne avait si bien protégé durant ces 5 dernières années venait enfin d'éclater au grand jour.
il avait rejoint les siens.
« Je me souviens de vous, Raten. »
Dilaf souriait à présent. Son rictus lui donnait un air méchant et démoniaque.
« Je vous revois, enfant, lorsque vous nous avez rejoints. C'était peu de temps avant mon départ pour la Rélone. Vous étiez peureux à cette époque, autant qu'aujourd'hui. Vous vous êtes enfui, et je puis vous dire que je vous ai vu partir avec plaisir. Vous n'auriez jamais fait un d'accord digne de ce nom. Vous êtes bien trop faible pour cela. »
Raten frissonna. « Vous étiez là ?»«
J'étais Gradjet à cette époque.
Vous ne vous souvenez pas de moi ?» Raten regarda l'homme dans les yeux, puis un souvenir ancien lui revint brutalement en mémoire. Il se remémora un regard démoniaque et le corps immense d'un homme sans pitié. Il entendit soudain des psalmodies. Il vit des feux. Il repensa à des cris, les siens, et à un visage au-dessus de lui. C'étaient les mêmes yeux. « Vous !» dit-il dans un souffle en frissonnant légèrement. « C'est vous qui m'avez persuadé de partir ?» Au cours de mon troisième mois au monastère, vous aviez demandé à un moine de se servir de sa magie pour vous transporter au palais de Virne, ce que le moine avait fait, acceptant de perdre la vie pour vous permettre de parcourir une distance qui vous aurait pris 15 minutes à pied.
La formation requiert une obéissance absolue. Des tests occasionnels et exemplaires servent de leçon à tous. Cela montre ce qu'est la véritable loyauté.
Puis il cessa de parler et se mit à contempler la baie. L'armada avait accosté et attendait ses ordres. Raten scruta l'horizon et aperçut soudain plusieurs taches noires, des pointes de mâts. L'armée de Virne arrivait.
« Venez !» ordonna Dilaf en se relevant. « Nous avons réussi. L'armada téwaz a accosté. » Ils ne pourront plus empêcher notre flotte de faire de même à présent. Il ne me reste plus qu'une chose à accomplir pour terminer ma mission. Tuer le roi Eventeo.
Une vision traversa soudain l'esprit impassible de Raoden. Il fit son possible pour l'écarter, mais pour une raison qui lui échappait, elle ne voulut pas s'en aller. Il la voyait affleurer à la surface miroitante de sa douleur. Une image simple, celle de Laon Rao, cette rune composée d'un grand carré entouré de 4 cercles et de lignes qui se rejoignaient au centre. C'était un Aon fréquemment utilisé, particulièrement par les Korati, pour sa signification, esprit, âme. Alors qu'il flottait dans une immensité vide, l'esprit de Raoden tenta d'effacer cette image. Les Aon faisaient partie d'une autre vie désormais, sans importance, et déjà oubliée. Il n'en avait plus besoin. Et pourtant, au moment où il réussit enfin à écarter la vision, une autre prit sa place. Elantris, 4 murs qui forment un carré, 4 villes tout autour, leurs enceintes formant un grand cercle. La route droite qui conduit depuis chaque ville à Elantris. Domu miséricordieux.
Les soldats ouvrirent plusieurs tonneaux de pétrole. Lequel les regarda répandre le contenu des barils sur les corps avec répulsion. 3 guerriers, à moitié nus, se tenaient sur le côté et chantaient dans une langue étrangère aux accents trop durs pour du fjordel.
« Nous sommes les prochains, » comprit Lequel.
« Ne regardez pas !»
ordonna-t-il à sa famille en tournant le dos aux soldats qui s'apprêtaient à immoler Elantris. Le roi Eventeo se tenait à distance, accompagné d'une garde d'honneur relativement restreinte. Le souverain baissa la tête lorsqu'il vit Dilaf approcher. Le moine sourit, puis dégaina un couteau. Eventeo croyait se rendre, pas donner sa tête à couper. Raten marchait à côté de Dilaf, réfléchissant au sens des termes « devoir » et « nécessité ». Des hommes allaient mourir. Cette victoire sur le Théode renforçait la réputation de l'Empire Fjordel. Grâce à cette notoriété nouvelle, les cœurs des hommes seraient plus fervents. Exactement ce que Raten avait lui-même tenté de faire en Arélone. il avait essayé de convertir des gens pour des raisons politiques, s'appuyant sur sa popularité. Il avait soudoyé Tel-Rihi pour qu'il se convertisse sans se préoccuper du salut de l'âme de cet homme. La situation était exactement la même. Que valait une nation d'incroyants comparée au peuple du Chudéret? Il avait beau chercher des justifications, tout cela lui donnait simplement envie de vomir. On m'avait envoyé sauver ces gens, pas les assassiner. Dilaf tenait sa reine par le cou. Elle avait la bouche bâillonnée. Eventéo leva les yeux et leur adressa un sourire bienveillant. Il n'avait toujours pas vu le couteau que Dilaf tenait dans sa main.
« Cela fait longtemps que j'attends ce moment »,
murmura doucement le Gradjet. Au début, Raten crut qu'il parlait de la destruction du Théode. Mais Dilaf ne regardait pas le roi. Il observait sa reine en appuyant la lame de son couteau contre son dos.
« Vous, princesse, vous êtes un véritable fléau. »
Il murmurait à l'oreille de la jeune femme à voix si basse que Raten entendit à peine ses paroles.
« Avant que vous ne veniez à Caé, les Arellois détestaient Elantris. Par votre faute, ils ont changé d'idée. Vous vous êtes associé avec les pires d'entre eux. Vous vous êtes même abaissé à leur niveau. Je vous trouve plus mauvaise qu'eux en réalité. Vous n'étiez pas une de ces maudits, mais vous avez tout fait pour devenir comme eux. Dans un premier temps, j'avais décidé de vous faire connaître la plus atroce des souffrances, de tuer votre père sous vos yeux, mais je pense à présent les choses autrement. Imaginez ce vieil Eventéo en train de vous regarder mourir, princesse. Pensez à cela lorsque vous vous retrouverez dans le puits des tourments éternels de Jadet. »
Sa reine pleurait, les larmes coulaient sur son bâillon.
Raoden luttait pour retrouver conscience. La douleur l'écrasait comme un énorme bloc de roche. Elle l'empêchait de remonter à la surface. Son esprit était attiré par la mort. Le jeune homme luttait de toutes ses forces contre elle quand soudain, la douleur déferla sur lui. Malgré cela, il se battait pour atteindre la rive, tentant péniblement de reprendre contact avec le monde extérieur. Il avait envie de crier, de hurler et de hurler encore. Il souffrait mille morts. Pourtant, en dépit de la douleur, il sentit soudain quelque chose. Son corps. Il était en train de bouger, quelqu'un le traînait sur le sol. Les images déferlaient dans son esprit à mesure que la vue lui revenait. On le tirait vers quelque chose de rond et de bleu. Le lac. « Non !» pensa-t-il soudain, totalement désespéré. « Pas maintenant ! Je connais la réponse !» Le corps de Raoden se mit à tressaillir, puis le jeune roi poussa un long cri. Galadon, surpris, le laissa tomber. Lorsqu'il tenta de se mettre debout, Raoden trébucha vers l'avant et tomba dans l'eau de tout son long.